Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement avec bienveillance sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Le nid, c'est aussi le podcast des parents qui m'inspirent. Des mères et des pères qui nous montrent un chemin parfois inconnu, une nouvelle vision de la parentalité. Ces portraits d'hommes et de femmes, j'ai décidé de les partager avec vous au micro du nid. Pour ce premier épisode hors série, je suis heureuse d'accueillir Priscilla. Maman de Rose, 27 mois, elle a quitté l'éducation nationale pour s'occuper à plein temps de sa fille. Je connais Priscilla personnellement grâce à Instagram, où elle y partage simplement son quotidien de mère et de femme sous le pseudo « Aimée est toujours Rose ». À mon micro, on discute de ses décisions, son parcours et les choix qui aujourd'hui guident sa vie. Priscilla, moi je te suis personnellement à travers les réseaux depuis plus d'un an, même avant d'être enceinte. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ?
Je m'appelle Priscilla, je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Rose, qui a 2 ans. Et voilà, j'ai complètement arrêté de travailler pour m'occuper d'elle, sachant qu'avant j'étais dans l'éducation nationale. Je sais pas encore si je vais y retourner ou pas. En tout cas, quand elle retournera à l'école, je reprendrai le travail, c'est sûr. Donc en attendant, je profite à 100%. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant partager sur les réseaux, parce que pour l'instant, je dispose de pas mal de temps libre, surtout à 2 ans quand elle commence à beaucoup jouer toute seule. Donc voilà, tout ce que je lis, je le partage en général.
Ouais. Ça, c'est une mine d'or pour les mamans, les futures mamans, les papas. Je sais que ça m'a beaucoup aidée à appréhender aussi ma maternité, même mon allaitement, d'utiliser les réseaux de cette façon. C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'à travers ces réseaux, on voit que tu es une maman hyper déterminée. Enfin, je trouve une maman hyper à l'aise. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la maternité avant d'être la maman de Rose ?
Je pense que c'était l'exact inverse de tout ce que je suis en train de faire maintenant. J'avais prévu d'être une maman qui retourne travailler, qui essaye d'allaiter, mais pas plus de 3 mois, parce que quand même, faut pas déconner. J'avais acheté un joli lit à barreaux, j'avais peint sa chambre, j'avais même acheté des biberons. Je me projetais dans une maternité qui, au final, n'est pas du tout celle que je vis actuellement.
Qu'est-ce qui avait déterminé en toi cette maternité déjà un peu toute tracée, tu vois ?
Ah, moi, je pense que c'est juste le monde qui nous entoure, en fait. Ouais. Quand on se balade dans n'importe quelle galerie marchande, les magasins de puriculture, on voit tout le temps des lits à barreaux. Donc c'est ancré que quand on a un bébé, il faut un lit à barreaux. Ensuite, c'est pareil, même si j'avais quand même la petite graine qui avait germé qui me disait que j'allais essayer d'allaiter, partout, quand il y a un bébé, il y a un biberon et une tétine. Donc c'était aussi obligatoire que peu importe si j'allais ou non, mon enfant allait forcément avoir un biberon, une tétine, etc. Et chaque petite chose comme ça, je pense que c'était vraiment des images mentales qu'on m'a projetées durant toute ma vie, de façon plus ou moins consciente. Et voilà, du coup, pour moi, c'est vrai que c'était en fait une évidence. J'avais pas vraiment réfléchi de moi-même. J'avais réfléchi avec ce que j'avais déjà dans la tête toutes ces années, quoi.
Et par rapport à toi, comment tes parents avaient pu être avec toi, est-ce que ça a joué sur l'image que tu t'étais faite de cette maternité ?
Je sais pas si on peut vraiment comparer. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, je pense pas que je peux vraiment comparer avec mon enfance. Déjà parce qu'elle était un peu particulière, et ensuite parce que je pense que comme beaucoup de parents, mes parents n'ont pas vraiment fait eux-mêmes ce qu'ils voulaient. En fait, ils ont suivi le mouvement, comme je m'apprêtais à suivre le mouvement, comme beaucoup suivent le mouvement en fait, sans trop se poser de questions. Et pareil, je pensais par exemple à l'allaitement. Ma mère, du coup, dans son optique, c'était un peu comme moi. Elle allait essayer d'allaiter et puis ça, si ça ne fonctionne pas, elle n'allaiterait pas. Sauf que vu qu'il y avait moins d'informations à son époque à elle, pour elle, ça n'a pas fonctionné, entre guillemets, parce qu'elle ne savait pas comment faire, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été biberonnée. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et...
Ouais, c'est un ensemble.
Ouais, voilà, exactement.
Et toi, à quel moment tu as eu ce déclic de te dire, en fait, ça, c'est pas la maternité qui me correspond,
genre. En fait, moi, j'ai pas eu le choix. Je remercie ma fille parce que on a eu un accouchement un peu chaotique. Et quand elle est sortie, comme beaucoup de bébés apparemment, elle avait le clapet qui n'était pas formé. Du coup, on pouvait pas la mettre à plat parce que sinon tout le lait ressortait. Donc c'était pas possible. Et du coup, j'ai dû passer mes premières semaines de maman avec un tout petit être qui était accroché à mon ventre. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas m'allonger, je pouvais pas la poser. Et du coup, en fait, ça m'a fait repenser à tout ce que j'avais imaginé parce que je me suis retrouvée avec un lit à barreaux dans une chambre dans lequel il était hors de question que je pose ma fille puisque de toute façon, elle ne pourrait pas respirer si elle était allongée dans ce lit. J'étais obligée de dormir collée à elle. Donc au début, c'était même pas un choix, en fait, au début. Et je me suis juste dit, bon, bah maintenant, il faut s'adapter, quoi. Il n'y a pas le choix. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Il était hors de question que je fasse une espèce de fabrication avec un matelas surélevé où je l'attacherais au matelas. J'ai vu qu'il y en a qui font ça. Moi, personnellement, ce n'était pas possible. J'avais besoin de la garder contre moi. Je pense que le fait que l'accouchement ait été aussi bien chaotique, ça a énormément joué dans le fait que, du coup, je me suis sentie encore plus un espèce de devoir de protection, peut-être. Ouais. Et voilà, du coup, en fait, j'ai décidé de... Je crois qu'à un moment, je l'ai dit à mon mari. J'ai dit, bon, écoute, on va oublier ce qu'on avait prévu et on va s'adapter à elle, quoi. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Elle avait des besoins qu'on n'avait pas prévus.
Et ton mari, il t'a suivi
Les yeux fermés. Ah ouais. Oui, tout de suite. Ça là-dessus, c'est vrai qu'on a vraiment de la chance mutuellement de savoir parce qu'il n'y a même jamais eu de vraie discussion. C'était fluide, en fait. C'est-à-dire que même lui, il se rendait bien compte que de toute façon, si elle n'était pas sur moi, ben, elle s'étouffait, elle vomissait, elle ne pouvait pas dormir, elle hurlait. Donc c'était logique, quoi.
Est-ce que du coup, à ce moment-là, tu t'es dit, en fait, peut-être que ce que j'avais prévu, c'était ce qui n'était pas naturel, entre guillemets, ce que je suis en train de vivre. C'était peut-être ce dont elle avait besoin profondément. Moi, je sais que j'ai été un peu dans la même situation que toi, c'est-à-dire accouchement très chaotique, un bébé qui réflexe de Moreau super fort, donc impossible de dormir sur le dos, et un bébé qui dormait sur ma poitrine pendant les premiers mois. Voilà. On a l'habitude de les conditionner de cette façon, et ça fonctionne comme ça. Mais si on laissait l'enfant vraiment exprimer son besoin premier, profond, est-ce que finalement on ne retournerait pas à ça, en fait, à la proximité ultime
Ah, moi j'en suis persuadée, c'est étrange à dire, mais je suis presque heureuse, en fait, de ces premiers mois et du fait d'avoir pas pu la poser parce qu'elle m'a forcée à me reconnecter à la nature, en fait. Vraiment, j'ai replongé dans ce qui était vraiment pour moi. La maternité, un petit bébé, voilà, qui sort du ventre de sa mère. En fait, ça m'a remis complètement les idées en place, quoi.
Et du coup, l'allaitement, comment est-ce que ça s'est mis en place
L'allaitement, je crois que j'ai vu à quel point j'y tenais quand à l'accouchement, elle n'a pas pu téter parce qu'elle était complètement dans les vapes. Donc, il lui a fallu une dizaine d'heures pour réussir à faire la première tétée. J'étais dans un état de stress pas possible et je crois que c'est là où je me suis dit, bon, je fais la maline à dire que je vais essayer, mais en vrai, j'y tiens. J'ai pas du tout envie qu'elle ait un biberon. Et voilà, ensuite, elle a réussi à téter, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai pas eu de problème avant super longtemps. J'ai eu des débuts idylliques. Enfin, pas de crevasse, pas de douleur, j'ai même pas eu d'engorgement. J'ai pas eu la montée de lait qui fait super mal. Tout s'est bien passé, quoi.
Et au niveau de l'accompagnement à la maternité, quand voilà, ces 10 premières heures où tu étais angoissée, tu trouves que tu as été bien accompagnée au niveau de tes angoisses ?
Il y avait donc l'homme sage-femme qui s'était occupé de nous avec mon mari, parce que je pense qu'on a accouché à deux, en fait, donc j'ai inclus mon mari dans le lot. Il était vraiment adorable, il avait compris ce qui me tenait à cœur. J'avais rédigé un projet de naissance sur une page recto verso, donc je pense qu'il il avait bien compris que voilà, j'avais certaines attentes, que j'avais pas envie de faire forcément comme tout le monde. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, j'étais pas venue les mains vides. Je l'avais forcé à lire le projet de naissance. Je lui avais dit que voilà, s'il était pas forcément d'accord, fallait plutôt en discuter plutôt que de faire quelque chose sans mon consentement. Ouais, on a carrément parlé du dalle avant que j'accouche. Enfin, j'étais vraiment, j'avais certains objectifs que j'avais pas envie de lâcher. Et quand on a rencontré les problèmes, je me souviens qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées dans la pièce, qui ont essayé de m'aider, qui ont essayé de voir si Rose n'avait pas un souci. Donc à chaque fois, ils me rassuraient, ils me disaient « Non, elle est comme vous. Elle a un peu sonné, il faut lui laisser le temps, tout va bien se passer, personne ne veut lui donner de biberon. » Enfin, voilà. Et au final, c'est mon mari qui a réussi à me faire la première mise au sein.
Oh, c'est génial.
Ouais.
Comme quoi, le monde n'en parle pas assez, mais le père... dans l'allaitement a une place hyper importante.
Ah bah lui, ça l'a marqué, hein. Il le raconte encore maintenant, il est super fier d'avoir branché la première fois sa fille.
Tout au long du coup de votre allaitement, est-ce que lui, c'était une appréhension de trouver sa place ou pas du tout?
Non, pas du tout. En fait, les rares fois où je lui en parle, il fait des grands yeux, genre je comprends pas ce que tu me dis. Pour lui, c'est naturel, en fait.
Oui, mon mari m'a dit, mais je comprends pas, je ne peux pas la nourrir, donc c'est juste ça. Pas ma place.
Ouais, c'est ça.
Il m'a dit, j'ai 14 000 autres moyens d'être père et ça ne passe pas par le tube digestif. Ouais. Mais bizarrement, c'était un soulagement pour moi, alors que ça n'aurait pas dû forcément l'être. Mais on a tellement, je trouve, cette image véhiculée de le père, s'il ne tient pas un biberon dans ses mains, ce n'est pas un père qui s'implique, que du coup, ouais, j'étais, tu vois, dans l'appréhension de savoir comment il allait pouvoir se placer. Et au final, ben, naturellement, un père... plein d'autres façons de...
Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a même pas à se poser la question, en fait. Il faut faire ce qui vient. Enfin, en tout cas, c'est vrai que si je parle pour mon mari, je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a juste fait ce qu'il pouvait faire et puis ça s'est fait. Et puis voilà. Maintenant, ils ont une super relation. Bien sûr. Je m'en fais pas pour eux, quoi.
Devenir parent, ça rime souvent avec l'achat du lit à barreaux, du parc, du transat, tout un tas de matériel. Est-ce que vous avez eu recours à ces achats pour Rose? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te sert vraiment après 2 ans?
Je pense que j'ai tout acheté. Tout ce qui était sur les doubles pages des catalogues de puériculture, j'avais tout. J'ai même fait certains échanges pour en avoir des mieux. Par exemple, le transat, on m'a donné un transat qui était très bien, mais je voulais un autre transat parce qu'il en fallait un mieux. Rose n'a jamais été dans un transat. Donc ça m'a servi à rien. Je crois que j'ai vraiment voulu avoir tout ce qui était possible d'avoir. J'ai eu plusieurs poussettes aussi. Donc les gens qui me connaissent savent que Rose a dû aller une quinzaine de fois dans une poussette. Donc c'était complètement inutile. Beaucoup de mobiles, des arches, des trucs comme ça. Alors qu'après on a fait une motricité complètement libre. Donc elle avait rien au-dessus de la tête. Ça n'a jamais servi. La seule chose... que j'ai eu en matériel de puériculture, qu'en plus je n'ai pas acheté parce qu'on me l'a donné. On récupère beaucoup, beaucoup de choses à la maison. C'était la chaise haute et c'est vraiment la seule chose qui nous a servi. En fait.
Bon, on est dans le même.
Je crois que tout le reste.
Dans le même cas, j'ai 3 poussettes qui dorment au virage. Et c'est vrai que voilà, le transat, moi, je me souviens de ma belle-maman qui m'avait dit: mais tu ne pourras pas faire sans transat. J'ai eu 4 enfants, comment est-ce que tu vas faire? Et c'est là que j'ai entendu parler de la motricité libre, notamment par toi et par d'autres mamans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, nous expliquer pourquoi est-ce que vous l'avez choisi pour Rose et surtout quels sont les bienfaits?
La motricité libre, du coup, comme son nom l'indique, c'est le fait de laisser l'enfant libre de ses mouvements, en fait. Ça permet de laisser son développement psychomoteur aller à son rythme. Donc ça ne veut pas dire plus vite ou moins vite qu'un bébé dans un transat, mais ça veut dire que c'est son rythme à lui, que personne n'interfère dans son développement. Et donc au niveau des bienfaits, déjà l'enfant est plus sûr de lui, a une meilleure confiance en lui puisqu'il a toujours tout fait tout seul. C'est-à-dire que personne ne l'a jamais mis assis, personne ne l'a jamais retourné, personne etc., ne l'a jamais fait marcher. Quand il marche, c'est tout seul. Quand il s'assied, c'est tout seul, etc. Donc il est beaucoup plus sûr de lui, de ses mouvements. Puis apparemment, donc là je ne peux pas témoigner puisque Rose n'a que 2 ans, mais apparemment ça se verrait même à l'âge adulte, c'est-à-dire que ça ferait des adultes qui seraient plus confiants en eux et en les autres aussi.
Comment on le met en place au quotidien?
En faisant rien.
Donc, voilà, je pose la question, je connais déjà la réponse, mais pour ceux qui...
En faisant rien. On se détache de l'idée qu'un bébé a besoin d'être dans un transat ou qu'a besoin d'être guidé ou quoi que ce soit. Et on le met au sol. Et puis, on habille l'enfant de manière à ne pas gêner ses gestes, même si ce n'est pas toujours super mignon. Tant pis, si ça ne le bloque pas dans son développement, c'est le plus important. Et puis, on lâche prise, je pense.
Ouais. En fait, la nature est hyper bien faite. Je trouve qu'on est dans une société où on est assez dépossédé de ça, en fait, de ce pouvoir de se dire « je fais confiance à mon enfant et à ce qui doit se passer naturellement ». Et matériellement, en fait, il y a besoin de peu de choses. Toi, quand tu voyages, qu'est-ce que t'emportes réellement de spécifique?
Un moyen de partage. Ouais. Donc ça varie. On n'a plus besoin de rien. Après, moi, c'est vrai qu'elle grandit, mais avant, c'était à peu près pareil.
Ouais.
Je pense que si jamais j'avais un autre enfant à l'avenir, la seule chose qui serait sur ma liste de naissance, donc soit ce serait un nouveau moyen de portage, mais ce serait vraiment pour me faire plaisir parce que j'en ai déjà bien assez, ou soit ce serait un matelas, en fait, pour préparer ensuite le sommeil partagé, etc.
Tu as très bien enchaîné sur le sommeil partagé, justement. Rose, elle a dormi avec vous donc, au début, mais ça s'est prolongé jusqu'à ses 19 mois, je crois.
Oui, c'est ça. Quand elle est devenue totalement continente, je crois, une ou deux semaines plus tard, elle s'est dit, tiens, je vais dormir dans mon lit en plus. Mais si ça suffisait pas.
Et là, toi, en tant que maman, t'es là, ça grandit beaucoup
moi,
trop vite.
Des nuits blanches. Moi, j'ai fait des nuits blanches avec les mains sur le matelas à me dire, c'est pas possible que ça se passe maintenant. Elle est beaucoup trop jeune, c'est pas possible. Et tout en lui disant, mais bien sûr, je te fais confiance. Si tu me dis que tu peux le faire, tu peux le faire. Il y avait une espèce de dissonance dans ma tête. C'était incroyable. Mmh. Donc, elle est partie dans sa chambre, c'est ça, vers ses 19 mois environ. Ça a dû durer 6 mois où elle a dormi dans sa chambre. Et puis, petit à petit, je crois que c'est suite à un rhume, ou je ne sais même plus pourquoi, elle est revenue dans notre chambre. Donc, on l'a accueillie, les bras ouverts, nous, ça ne nous dérange pas du tout. On l'a reprise, du coup, dans notre lit. Et là, ça doit faire 3 semaines qu'elle est retournée dans sa chambre.
Naturellement.
Oui, bah, en fait, on s'est aperçu que si elle avait quitté son lit, ce que j'avais... On n'avait pas du tout fait le rapprochement quand elle l'a quitté, mais je lui avais installé un ciel de lit au-dessus de son matelas dans sa chambre pour décorer sa chambre. Donc elle me disait qu'elle trouvait ça très beau, sauf qu'en fait elle m'a dit plus tard que c'était très beau, mais ça lui faisait peur. Du coup, elle voulait bien regarder, mais elle ne voulait pas dormir en dessous. Et en fait, à partir du moment où je lui ai demandé « est-ce que tu veux qu'on l'enlève ?», elle m'a dit oui, on l'a enlevé et le soir, elle retournait dans son lit.
Donc, encore plus minimaliste que
ouais,
c'est,
ouais,
que
c'est ça. Parce que non, mais parfois, c'est en voulant décorer, faire que ce soit mignon, etc., ben, on s'éloigne vraiment de ce que c'est voudrait l'enfant, de ce qu'il aurait besoin.
Cette décision de partager son sommeil, est-ce que c'est une décision qui a découlé de justement ce que vous avez vécu à la naissance? Ça a été ce qui vraiment a été la continuité?
Oui, complètement. Il faut savoir que j'ai essayé quelques fois, je crois que ça doit être 4 nuits à peu près, pas plus, de la faire dormir à côté de nous et pas dans le lit. Je pense que je subissais vraiment très très fort la pression qui disait qu'on ne doit pas mettre un bébé dans son lit. J'étais pas assez armée à ce moment-là comme je le suis maintenant. Maintenant, j'en ai rien à faire, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me touchait. Et du coup, j'ai essayé de la faire dormir à côté de notre lit et ça m'a fatiguée, mais ça m'a exténuée de la soulever, la prendre, la mettre au sein. C'était pas possible, en fait. Et du coup, c'est la fatigue qui m'a dit, mais pourquoi t'essayes de changer quelque chose qui fonctionne? Si c'est pour plaire à quelqu'un que tu connais pas, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi?
Complètement.
Et puis voilà, comme sur tout le sujet, mon mari m'a dit, bah bien sûr. Et puis voilà, et puis on a continué comme on faisait, et on s'est jamais pris la tête. Pourtant, ça a déplu à toute notre famille, je pense. Ouais. Mais bon, à chaque fois, on leur dit, c'est nos zones. C'est notre famille à nous, c'est nos histoires à nous. Vous n'êtes pas là le soir, qu'est-ce que ça vous fait, quoi?
Complètement. Et qu'est-ce que tu dirais à une maman qui aurait peur? Tu vois, on entend souvent, oh là là, mais vous allez l'écraser. ce genre de choses pour qu'elle soit en confiance, en fait.
Moi, je rappelle toujours les règles de sécurité du cododo. Parce que c'est vrai que, ok, ça peut être instinctif, on dort avec son enfant, etc. Mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et l'instinct d'une personne ne va pas être l'instinct d'une seconde personne. Surtout dans une société où l'instinct n'a aucune place. Donc je pense qu'on est bien déconnecté. Et du coup, ça ne fait pas de mal de rappeler les règles du cododo. Donc pas d'alcool, pas de drogue. Enfin, les parents ne sont ni alcoolisés, ni drogués. Les parents ne sont pas fumeurs non plus. Le matelas doit être ferme. Après, pour moi, c'est du bon sens. C'est sûr que si le matelas est tout mou et que le bébé s'enfonce dedans, ça va pas être bon. Un matelas ferme, voilà, une pièce pas trop chauffée. Mais ça, c'est pareil pour les adultes. On n'est pas censé dormir dans des pièces chauffées. Et puis, voilà, les premiers temps, pas de couette au-dessus du nombril, les oreillers loin de l'enfant. Et puis, prévenir toutes les personnes qui dorment dans le lit qu'elles dorment avec un bébé. Et à partir de là, ben, tout roule, il n'y a pas de souci. Et en général, je rappelle aussi qu'au Japon, où le sommeil partagé, c'est la norme, le taux de mort subite du nourrisson, c'est le plus bas du monde.
Quand on parle des achats bébés, le premier achat, je pense, le number one en haut de toutes les listes, c'est la poussette. Je sais que toi, Rose, t'es adepte du portage depuis sa naissance, et encore maintenant. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix et quels sont les bienfaits que tu remarques déjà chez Rose et pour toi?
J'ai pratiqué le portage dès sa naissance, oui, mais j'ai aussi commencé la poussette. Voilà, son premier jour en portage, je devais avoir 4 jours. Et le lendemain, j'ai voulu tester la poussette parce que j'avais envie de tester tous mes super accessoires. Et pour le coup, elle n'a pas bronché du tout, mais moi, je n'ai pas du tout apprécié l'expérience. J'ai trouvé ça très étrange. En fait, je promenais la poussette et pas mon enfant. J'étais loin d'elle, rien ne me paraissait normal en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup privilégié le portage. Au niveau des bienfaits, je crois que ça favorise aussi le bon développement psychomoteur. C'est vrai que Rose, elle a été très tonique, très active. Bah, à 9 mois, elle marchait, quoi. Bah, je ne saurais jamais dire si le portage a aidé ou pas. Je ne pourrais pas savoir. Mais en tout cas, voilà, pour nous, c'est vrai qu'elle a été très active sur le plan psychomoteur très rapidement. Et puis, ça nous sauvait pour les coliques. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et c'est vrai que Rose a souffert énormément de coliques, qui, je pense, pour moitié, étaient plutôt des crises d'allergie, parce qu'ensuite, on a vu qu'elle était allergique au lait de vache. Donc, je pense qu'une colique sur deux, c'était pas vraiment une colique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle souffrait, c'était magique, quoi. On sortait à l'écharpe et elle se calmait instantanément. Et je trouve aussi, d'un point de vue extérieur, il faudrait demander à mon mari son avis, mais que ça a énormément aidé dans la construction du lien père-enfant. Parce qu'il a vécu une espèce de grossesse prolongée où il l'avait vraiment contre son torse. C'était vraiment une toute petite boule de bébé en position fœtale. Et je pense que ça a aussi beaucoup contribué à leur relation actuelle. Il n'y a pas longtemps, elle a décidé qu'elle ne voulait plus être portée par son père dans un moyen de portage. Et ça lui a crevé le cœur. Parce qu'il s'était beaucoup habitué à pouvoir avoir aussi cette symbiose-là. Mais bon, après, si elle ne veut plus, elle ne veut plus, quoi.
Ouais, et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, à la maternité, je l'ai portée en écharpe. Et dès le retour à la maison, je ne pouvais plus le porter. J'ai eu quelques soucis après l'accouchement. Du coup, c'est mon mari qui j'ai donné une sorte de bébé cours de portage pour essayer de lui apprendre à manier l'écharpe. Et depuis, il n'y a pas un jour où il ne le porte pas. Je pense qu'encore aujourd'hui, il a un an, il le porte 4 heures par jour minimum. J'enchaîne sur un tout autre thème que tu abordes aussi très régulièrement sur tes réseaux, donc les VEO, les violences éducatives ordinaires. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'offrir à Rose une éducation sans violence?
Ah, et violence éducative ordinaire, il y a le mot violence dedans, donc c'est tout ce qui est violent envers l'enfant, mais qu'on dit que finalement c'est pas si grave que ça parce que c'est pour l'éduquer et tout le monde le fait, donc éducative ordinaire. Et donc il n'y a pas que la fessée dont on entend parler partout, tout le temps. Il y a aussi les violences psychologiques, les violences verbales, mal parler à son enfant, l'humilier, lui faire du chantage. En fait, tout ce qui serait violent pour nous adultes, tout ça, c'est violent aussi pour les enfants, même s'ils ne peuvent pas forcément l'exprimer comme nous. Donc on a décidé de bannir les violences éducatives parce qu'on trouve que déjà elles ne sont pas du tout éducatives. Toutes les études qui sont faites sur le sujet le démontrent bien que ça n'éduque absolument pas un enfant. Ça peut donner l'illusion que, mais on se rend bien compte qu'au final, en général, ce qu'il craint, c'est plus la punition derrière que vraiment, il n'y a pas vraiment compris pourquoi on pouvait faire telle chose, pourquoi on ne pouvait pas faire telle autre chose, etc. Et en fait, on revient plutôt de loin sur ce sujet. Puisque donc, en tant qu'enseignante, je pense que j'ai usé de violences éducatives. Ça m'a fait bizarre quand je m'en suis rendue compte. Et ce qui m'a fait encore plus bizarre, c'est de m'en rendre compte uniquement maintenant à la naissance de mon enfant. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé qu'on me sensibilise au VEO, par exemple, durant mon parcours de professeur des écoles. Ce qui n'a pas du tout été le cas. On nous fait des petits rappels de la loi. Mais bon, tout le monde sait qu'il y a la loi et puis il y a ce qui peut se passer dans un huis clos. Et du coup, ça m'a fait énormément réfléchir sur ma propre personne. Je me suis juste demandé qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre à ma fille, qu'est-ce que j'ai pas envie de lui transmettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être en contact avec d'autres violences. Je sais bien, elle ne vivra pas dans une bulle uniquement avec sa maman et son papa. Mais en tout cas, j'ai plutôt envie de lui fournir des armes non violentes si elle se retrouve face à une violence, plutôt que de lui inculquer que, on répond à la violence par la violence, il n'y a que la violence qui fonctionne.
Loi du plus fort.
Voilà, c'est ça.
J'appréhende de sortir même. Quand je vois des parents et des enfants, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à gérer pour moi, parce que je trouve qu'on est baigné dans les violences éducatives. Et ce genre de choses qui nous paraît tellement commun, est-ce que toi, ça a tout de suite fait tilt pour toi?
Non, moi, ça n'a pas été évident du coup. Il y avait des choses, par exemple, que je faisais avec Rose. Je ne considérais pas du tout que c'était violent. Mais par exemple, j'ai commencé à lui demander l'autorisation, ou tout du moins à la prévenir, que j'allais m'occuper de toucher ses parties génitales, par exemple, pour les nettoyer lors d'un changement de couche. Maintenant, ne pas le faire, je trouve ça d'une violence inouïe. Je suis choquée des parents qui lèvent la couche, qui essuient, qui ne parlent pas à l'enfant. Ça me serre le ventre. mais je l'ai fait avec mon enfant, parce que j'ai toujours vu tout le monde faire comme ça avec leurs enfants. Je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un demander « Bon, alors là, je vais nettoyer la vulve, etc., j'y vais. » Alors que, en fait, ça paraît évident. J'aime bien faire le parallèle avec une personne âgée qui n'aurait pas tous ses moyens. Par exemple, on n'irait pas la nettoyer comme ça sans la respecter. Alors peut-être qu'elle aurait besoin de se faire nettoyer, mais certainement pas sans la regarder, sans lui parler, sans lui expliquer. Je veux dire, on ne touche pas le sexe ou les fesses de quelqu'un sans son consentement. Pourquoi on le fait avec un bébé? C'est extrêmement violent. En plus, pour ensuite lui dire, attention, personne n'a le droit de te toucher à cet endroit-là sans ton accord, etc. Ça n'a aucun sens. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses où au début, quand je les ai eues, je me suis dit, oui, mais enfin, c'est bon. Et puis ça a travaillé, jusqu'à ce que j'ai présenté mes excuses à ma fille. Parce que pendant très longtemps, je l'ai fait sans son consentement. Je lui ai rappelé que c'était très important, que j'avais eu tort, que je m'étais trompée. Et que maintenant que j'avais compris, j'allais lui demander. Et je suis persuadée, alors je pense qu'il y en a qui vont me dire complètement folle, mais je suis persuadée qu'elle a tout à fait compris. Enfin, ensuite, ça s'est passé beaucoup mieux. Elle a voulu expérimenter une ou deux fois de refuser que je la change, que je la nettoie. Et dans ce cas-là, j'en ai profité pour appuyer son contrôle sur son corps en lui disant « Il n'y a pas de problème, c'est ton corps à toi. » Tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Tu veux faire toute seule, c'est à disposition. Tu veux que je vienne le faire, je viens le faire. En attendant, c'est toi qui décides.
Ouais. Et toi, tu as pris donc la décision de quitter ton métier de maîtresse au sein de l'éducation nationale et t'occuper à plein temps de Rose pour l'instant. Comment est-ce que tu es venue à cette décision?
Moi, comme beaucoup d'enfants, j'ai été placée chez une assistante maternelle à la fin du congé maternité de ma maman. J'ai énormément encore à l'heure actuelle de tendresse envers cette femme qui m'a élevée en même temps que mes parents m'élevaient. Parce que quand même, quand on est plus de 10 heures par jour chez une personne, on peut quand même considérer qu'elle participe à l'éducation de la personne. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre, en fait, de confier son enfant, la chair de sa chair, à un inconnu ou à une inconnue, et ensuite d'aller gagner de l'argent pour aller payer cet inconnu parce qu'elle garde notre enfant, pendant qu'on va gagner de l'argent pour payer cet inconnu parce qu'elle garde notre enfant. Et ça fait une espèce de cercle comme ça, infernal. Et je me suis dit, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment super bizarre. Je ne me retrouvais pas là-dedans. Alors au début, j'ai commencé à dire j'irai retravailler vers ces 6 mois parce qu'elle sera grande. Je pensais qu'on était grand, 6 mois. Et puis ensuite, j'ai décalé à 1 an parce que je me suis rendu compte que 6 mois, on n'était pas si grand que ça. Et puis Rose a eu 1 an et en fait, on n'a même pas abordé la question avec mon mari parce que c'était une évidence que, que non, à 1 an non plus, on n'était pas grand, autonome et indépendant, prêt à prendre son appart. Mmh. Donc on a conclu d'un commun accord que de toute façon, puisqu'on en était là et qu'on avait pris ces décisions, autant aller jusqu'à l'entrée à l'école, puisque ça, c'était une vraie décision commune de la mettre à l'école à ses 3 ans. Donc, on s'est dit, allons jusqu'à 3 ans. En attendant, moi, je profite, elle profite. Mon mari aussi profite, parce que mine de rien, moi, j'entends souvent, oui, tu te fais plaisir, etc. Mais je sais que mon mari me dit aussi régulièrement qu'il est heureux de savoir que son enfant n'est pas avec une inconnue, qu'il est avec sa mère, parce que Rose a besoin de sa mère, parce qu'elle n'a que 2 ans. Et même si elle en a moins besoin que quand elle avait 2 mois, ça reste quand même un petit enfant. Donc tout le monde est en paix, en fait, avec cette décision. Ouais.
Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.